Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Academy. Cette année, la Normandie se mobilise pour fêter le bicentenaire de la naissance de Flaubert. L'écrivain a grandi à Rouen, où son père était médecin. Il a ensuite vécu sur les bords de Seine, dans la maison de Croisset, qui abritait son cabinet de travail. Aujourd'hui, la région met en avant l'enfant du pays. Comment s'est construite cette notoriété pour les touristes? Flaubert est-il devenu un monument parmi d'autres du patrimoine normand? Nous allons nous poser ces questions avec l'historien David Michon. Il a consacré sa thèse de doctorat aux commémorations et au parcours mémoriel en l'honneur de Gustave Flaubert. Il est enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne. Bonjour David Michon.
Bonjour.
Alors, Flaubert meurt en 1880 d'une façon brutale, alors qu'il termine Bouvard et Pécuchet. Et à son enterrement en Normandie, la population locale semble assez peu présente et, pour tout dire, assez indifférente. Comment l'expliquer alors que l'auteur était très célèbre ?
Oui, tout à fait. En fait, on a cette image-là, puisque c'est le témoignage d'Émile Zola dans Le Figaro qui estime que Flaubert était inconnu des 4 cinquièmes de Rouen et détesté de l'autre cinquième. Donc finalement, plus inconnu que mal aimé. Alors certains disent que c'était un jour de marché, donc les Rouennais étaient beaucoup plus affairés à ses affaires précisément, et moins finalement à la reconnaissance, puisqu'il n'y avait même pas de connaissance d'une famille qu'il connaissait très très bien, parce que le frère de Flaubert et le père de Flaubert, comme vous l'avez dit, étaient des médecins vraiment renommés et reconnus. Mais ce fils artiste, qui en plus a, on va dire, présenté la Normandie sous des atours pas très positifs, forcément, on ne le connaît pas tellement. Et à l'enterrement, finalement, certains Rouennais déjà découvrent que peut-être ce Gustave Flaubert mérite d'être connu simplement par le fait qu'il y a de nombreuses personnalités parisiennes à son enterrement. Et on a des interrogations, on a des Rouennais qui voient passer le convoi, mais finalement regardent, observent, contemplent peut-être plus de journalistes parisiens, d'écrivains parisiens, et on a aussi peut-être le début d'une réflexion sur ce fils un peu honni, ou du moins déjà méconnu.
Quels sont les premiers signes de reconnaissance? Ils arrivent assez vite.
Alors finalement, ils arrivent assez vite. C'est vrai qu'on avait du mal à se dire ça il y a encore peu de temps, mais si on regarde, ils arrivent assez vite, puisque 2 ans après, en 1882, il y a le Théâtre des Arts qui est inauguré, et Flaubert est représenté avec d'autres, hein, Corneille, son ami poète Bouillet, Fontenelle, Géricault, et Boieldieu, il est peint sur un plafond, et donc c'est déjà une forme de reconnaissance, certes assez faible, mais ça vient déjà quand même avant des reconnaissances un peu plus larges, notamment sur du patrimoine bâti.
Au XIXe siècle, nous sommes en pleine période de la sculpture monumentale. À partir de quel moment Flaubert passe-t-il ce cap? Il se fait en plusieurs étapes. D'abord un bas-relief et puis il prend plus de stature pour avoir droit à une statue en pied.
Oui, tout à fait. C'est vraiment une démarche forte de la Troisième République. Mais avant tout, et si on parle assez peu finalement de ce côté des grandes figures nationales portées par la République, ce sont des amis proches qui se questionnent sur cette postérité et qu'en faire et qu'est-ce qu'on pourrait sauver justement du maître. Alors tant dans les documents, dans les manuscrits, de toute façon qui sont légués à sa nièce Caroline, mais pour la statuaire publique, il y a des reconnaissances. Donc effectivement, en 1890, un bas-relief qui est présenté sur la façade principale du musée des Beaux-Arts de Rouen, qui est actuellement depuis 1982 dans le jardin du musée Flaubert et d'histoire de la médecine, mais c'est déjà une première reconnaissance. Et au fur et à mesure, on a aussi une sauvegarde de lieux emblématiques. Alors, lieu emblématique, c'est déjà le pavillon de l'Hôtel Dieu qui abrite sa chambre natale, qui devient un musée d'histoire de la médecine en 1901. Mais pour l'instant, on parle assez peu de la chambre natale. Elle ne se visite pas pour le moment. Par contre, en 1907, on a l'inauguration d'une statue en pied réalisée par Bernstam devant l'église Saint-Laurent. Donc ça, c'est quand même aussi une reconnaissance importante. Et pour faire le va-et-vient avec les pures créations comme des statues et la sauvegarde de certains lieux, on a dans les mêmes années la sauvegarde du pavillon Flaubert. Alors, qu'est-ce que le pavillon Flaubert ?
Oui, justement, parce que Flaubert habitait dans une maison sur les bords de Seine, et cette maison a été, appartenait en réalité à sa nièce et a été détruite un an après sa mort.
Bah, il n'a jamais été propriétaire, on va dire, puisque c'était la propriété de sa mère, et voilà. Donc, lui, quand sa mère meurt, bon, bah, finalement, il est, on va dire, il est locataire. Et bien sûr, oui, cette maison est détruite et rachetée. Le terrain devient, permet la construction d'une usine qui ne va pas durer très, très longtemps. Et on a ce petit pavillon, en bord de route, d'ailleurs, qui est sauvé à l'initiative de Paul Toutain, relayé avec des journalistes locaux. Connu, notamment Georges Dubosc, et on a donc ce vestige-là qui est préservé, on va dire, qui est même inauguré. On a des premières visites, on est dans les années 1906-1907. Et finalement, bah, c'est un lieu qui devient emblématique, qui bien sûr est un petit peu poussé par un fantasme qui voudrait dire que Flaubert peut-être a écrit, a vécu ici. Bon, ça fait partie aussi du mythe, alors qu'il n'en est rien, ou du moins on n'a pas les sources pour l'affirmer. Donc non, pas du tout. Mais dans tous les cas, c'est un peu logique, puisque c'est uniquement ce qui reste. Donc, il y a aussi cette perte irrémédiable de cette maison, et on sait que c'est assez important aujourd'hui, les maisons d'écrivains. En tout cas, lui, il reste qu'un petit pavillon, il n'y a pas fait grand-chose.
Et justement, nous sommes dans une période où les maisons d'écrivains se développent, elles sont à la mode. En 1902, c'est l'ouverture de la maison de Victor Hugo à Paris. On en parle beaucoup dans la presse. Et puis, à Rouen, il y a l'ouverture en 1906 d'un autre écrivain de la ville, et c'est Corneille.
Oui, tout à fait. On est dans des périodes, quand on se penche un petit peu, j'ai pas mal cherché dans des corpus et des fonds de guides touristiques, Corneille, Jeanne d'Arc, au début du XXe siècle, ce sont des figures très importantes et on sait qu'on est dans des logiques où à Rouen, on avait en 1907 la création du syndicat d'initiative de Seine Inférieure, et le syndicat d'initiative est en recherche justement d'éléments à mobiliser pour présenter une identité, pour présenter aussi des traits touristiques et des attraits touristiques pour les locaux, bien sûr, mais aussi et surtout pour les touristes. Et finalement, Flaubert en fait partie assez rapidement. On signale justement le pavillon, on signale aussi la chambre natale. Donc, mais il fait partie d'autres figures de premiers itinéraires, et bien sûr Corneille incontournable et d'autres, mais Flaubert n'est pas forcément oublié.
Il faut dire que la Normandie est une région assez pionnière en matière de tourisme. Les gens viennent d'abord pour les stations balnéaires, et puis ils visitent aussi le territoire grâce au chemin de fer notamment.
Oui, tout à fait. C'est une terre d'écrivains aussi, il faut le dire, hier et aujourd'hui encore. Donc, cette réflexion-là, elle se construit en mettant en avant des lieux aussi. On ne parle pas encore de lieux de mémoire ou de lieux de souvenirs, mais en tout cas, on a le début de construction un petit peu d'étapes. Et ces points d'étape-là, sachant qu'en plus, quoi qu'on en dise, en Normandie, et notamment à Rouen, pour Flaubert, on a son lieu de naissance, sa chambre natale, et on a aussi au cimetière monumental, sa tombe. Donc, il a passé plus de 60% de sa vie là-bas, si on regarde les lieux d'écriture de ses lettres dans la correspondance. Donc, Flaubert normand a plus d'un titre complètement, et ça va faire quelques décennies que la Normandie reconnaît, au moins dans les actes déjà, ce fils peut-être un peu turbulent, pour notamment la promotion territoriale.
Il y a donc comme un passage de relais entre les proches de Flaubert et puis peut-être plus les édiles locales. Est-ce que nous pourrions revenir sur le rôle de sa nièce Caroline, qui à la fois a détruit la maison de Flaubert et en même temps a défendu elle aussi sa mémoire ?
Alors elle a détruit. Disons qu'elle était, on va dire... C'est elle qui a tout obtenu, qui a essayé aussi de faire fructifier l'héritage de son oncle. Alors fructifier, pas forcément au niveau financier, mais qui avait un regard bien à elle, de défense de ce qui pouvait se produire, s'écrire à propos de son oncle, mais elle participe aussi largement à la diffusion de premières correspondances, et puis elle oriente aussi beaucoup la postérité, vu qu'on en parle. Elle oriente la postérité, notamment par ses legs et ses dons, quand elle va donner tel manuscrit à Paris, tel manuscrit à Rouen, ça reste encore aujourd'hui, et bien sûr, ça oriente largement, aujourd'hui on le voit en 2021 avec le bicentenaire, quelle ville revendique quel Flaubert, parce qu'il y a plusieurs Flaubert, bien sûr. Et le rôle de Caroline, très critiqué pendant de nombreuses années, parce qu'on arrive facilement à lire dans les archives que par moments, elle ne donne pas accès à de nombreux écrivains, chercheurs qui souhaitent avoir accès à tel document, à tel manuscrit. Et puis, elle ouvre grand les portes à d'autres. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur une réflexion mesurée par rapport au fait qu'elle a quand même sauvé un certain nombre de documents aussi, et qu'elle a ensuite livré et protégé en donnant à des institutions publiques des manuscrits. Et puis ensuite, à sa mort, il y a eu deux grandes ventes aux enchères qui ont largement dispersé tout cet héritage-là.
Est-ce que le centenaire de sa naissance en 1921 a donné lieu à des événements particuliers ?
Oui, alors en 1921, on a un centenaire qui est parisien, on a un centenaire qui est rouennais également. On peut peut-être noter deux choses. La première chose, c'est que ça permet à la chambre natale d'être, on va dire, réhabilitée, et elle va rouvrir deux ans après, elle va ouvrir même tout simplement en 1923. Alors on a des écrivains, notamment Louis Bertrand, qui justement s'en inquiète en se disant quelques années avant... que cette pièce-là était devenue un capharnaüm, uniquement une réserve pour des étudiants en médecine. Et donc là, on a peut-être la prise de conscience aussi qu'on a un lieu important. Mais aussi, et ça éclaire bien sur le fait que Flaubert n'était pas ce qu'il est encore aujourd'hui dans la postérité, c'est que son ami poète complètement oublié aujourd'hui, Louis Bouilhet, est célébré également. En fait, c'est un double centenaire. C'est un centenaire de deux personnalités. Flaubert et Bouilhet. On trouve dans les textes que les organisateurs avaient peur que simplement fêter Flaubert n'allait peut-être pas suffire à, on va dire, attirer suffisamment de personnes, même si on est sur un centenaire qui est assez élitiste quand même, qui s'adresse à des gens qui ont lu quand même Flaubert, qui ont peut-être aussi connu Flaubert, puisque mort juste 41 ans avant. Donc on est sur cette logique-là, avec quelques polémiques encore, notamment le secrétaire perpétuel de l'Académie française, d'ailleurs Frédéric Masson, qui répond à l'invitation pour les célébrations parisiennes en disant justement qu'il n'ira pas, puisque lui apparemment a bien connu Flaubert, et la mémoire un petit peu lissée qu'on en fait aujourd'hui, du moins en 1921, il ne se reconnaît pas là-dedans, et il ne veut pas être caution de cette mémoire-là. Donc toujours un petit peu ces mémoires conflictuelles.
En 2021, nous sommes dans l'année du bicentenaire de la naissance de Flaubert. Les partis pris sont complètement différents. Quelles sont les grandes lignes qui ont été choisies par la Normandie, à différents niveaux d'ailleurs, au niveau de la ville, du département, de la région ?
Alors, disons que c'est peut-être la reconnaissance et l'acceptation de ce Flaubert un peu complexe, avec toutes ses aspérités, avec ses contradictions et ses paradoxes, comme n'importe quel être humain, finalement. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça permet d'avoir, à peu près, avec le dispositif et le collectif Flaubert 21 en Normandie, plus de 200 projets labellisés, et quand on les regarde, des expositions, énormément de publications aussi, une grosse activité éditoriale, beaucoup de créations artistiques diverses et variées. Et finalement, peut-être que tout le monde peut se reconnaître un peu dans un Flaubert, et on a l'acceptation de la richesse de ce personnage, tantôt ermite, bougon, anti-bourgeois, alors que lui-même est bourgeois, mais il le reconnaît. Et puis, par moments aussi, notamment l'hiver, quand il passe plusieurs semaines et mois à Paris, qui apprécie les honneurs. Un écrivain a une belle formule, l'ermite aux gants blancs. C'est complètement ça. C'est que donc rien que là, dans ce positionnement, on a quelqu'un d'assez paradoxal. Mais cette reconnaissance-là aujourd'hui en 2021, elle est belle en cela que on a, même par rapport à ses œuvres, voilà, des gens qui continuent à travailler sur Madame Bovary, bien sûr, mais aussi par rapport à sa correspondance, donc beaucoup plus sur la biographie, d'autres beaucoup plus sur l'écrivain en lui-même, mais aussi les quelques pièces de théâtre qu'il a pu voilà, écrire ou tenter, ou au moins une déjà. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une pluralité de démarches qui éclaire, je crois, les complexités du personnage qu'on n'avait toujours pas encore, parce qu'on n'en a pas parlé, au centenaire de sa mort en 1980. Parce que c'était quand même un grand centenaire, mais peut-être un centenaire encore sur le voilà, Flaubert écrivain, et en acceptant peut-être ou en révélant un peu moins les aspérités du personnage.
Eh bien, nous souhaitons effectivement une dynamique nouvelle à ces lieux-là. Un grand merci, David Michon, de nous avoir expliqué cet héritage de Flaubert en Normandie, comment les Normands ont construit finalement ce patrimoine autour de Flaubert. Un grand merci et à bientôt.
C'est moi qui vous remercie.